Vous êtes à l'écoute de Radio Pleine Lune sur Radio Zoo 93.8. Nous allons passer à une émission sur la reconnaissance des enfants clandestins à Genève. Nous avons deux personnes ici qui vont nous parler d'associations genevoises pour la reconnaissance et l'encadrement des enfants sans statut légal, la Grèce. Alors, d'abord, on va commencer par une question. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots l'association La Grèce?
La Grèce est une association qui s'est créée à partir du besoin que se faisait ressentir de tous les enfants qui étaient empêchés d'aller à l'école ici. Alors, elle est composée d'institutions et de personnes libres. Elle a été faite suite à l'incapacité qu'il y avait de trouver un encadrement pour ces enfants qui n'avaient pas le droit d'aller à l'école. On a essayé de chercher ensemble avec le Centre social protestant, Caritas, Genève et Terre des Hommes, ensemble avec le Centre de contact. On a essayé de trouver un mécanisme, une association des droits privés qui avait deux projets en fait, hein. Donner une réponse dans une certaine mesure à ces enfants sans scolarité, mais qui est très limitée, donc faire appel à des fonds privés des personnes pour pouvoir mettre à disposition de ces enfants, d'un certain nombre d'enfants, parce qu'on ne peut pas tout assumer, une scolarisation. Et d'un autre côté, on voulait, par cette démarche, essayer de sortir le problème de la non-scolarisation de ces enfants clandestins sur la place publique. Mmh. Et c'est pour ça qu'un certain nombre d'associations avec une certaine catégorie, comme le Centre social protestant, Caritas ou Terre des Hommes, ont été impliquées dans l'affaire.
D'accord. Et puis, justement, passons aux enfants clandestins. Est-ce que tu peux nous expliquer, ou vous pouvez nous expliquer, qu'est-ce que c'est qu'un enfant clandestin? Et puis aussi nous dire, est-ce qu'on peut dire combien d'enfants clandestins il y a ici à Genève?
Un enfant clandestin, c'est très curieux comme appellation, n'est-ce pas? Parce que, de par lui-même, un enfant est plutôt bruyant. Donc, c'est très difficile qu'il passe inaperçu, mais dans ce pays des cocagnes, tout est possible. Alors, un enfant clandestin, en fait, c'est un enfant dont les parents ont un statut de précarité, c'est-à-dire un permis A, qui ne leur donne droit qu'à travailler 9 mois par année. Et au bout de 4 années, sans perte de plus d'une semaine de continuité dans le pays, ont droit à un permis B. Alors, ce permis B devrait donner droit au regroupement familial. Je dis « devrait ». Parce qu'en fait, il y a des enfants clandestins qui sont fils et enfants des permis B, déjà, suite à la crise du logement et à la difficulté que ces familles trouvent pour avoir un appartement conforme, qui est une des obligations qu'ils ont pour avoir droit au regroupement familial. Alors, il y a deux enfants clandestins. Il y a les enfants clandestins permis B, il y a les enfants clandestins permis A. La situation de ces enfants, en fait, est aussi diverse. Il y a déjà deux catégories d'enfants clandestins. Donc, il y a la catégorie des enfants permis B dont on a trouvé par le biais de l'interpellation aux autorités et la décision de M. Folmy de les inclure dans l'école publique genevoise. Et il y a les enfants, toujours les enfants des permis A, qui, selon le statut de leurs parents, n'auraient pas le droit d'être ici, mais qui le sont. Parce que les enfants n'ont pas la possibilité finalement de les garder dans le pays d'origine, parce qu'entre-temps, une fois sa sortie programmée et faite, ils ont trouvé que les grands-parents sont morts, et puis ils ont été obligés quand même de prendre ces enfants, ou parce que la situation dans la famille, dans le pays d'origine, a changé, ils n'ont pas pu avoir la possibilité de les faire garder ou scolariser dans leur propre pays, donc ils les ont fait venir. Ces enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école publique. Ce qui fait que, ou bien les parents ont assez d'argent, ou s'essagnent tant qu'ils peuvent pour les inscrire dans les écoles privées. Nous savons tous quel est le coût des écoles privées à Genève. Et nous savons qu'ils font le beurre, en fait. Ces écoles font le beurre de ces enfants sans statut légal. Ou bien ils n'ont pas des moyens vraiment pas. Et alors, elle les garde cachés à la maison avec la peur continuelle de, qu'ils ouvrent la porte quand ils ne sont pas là, qu'ils répondent à des gens à l'extérieur, qu'il leur arrive quelque chose, il n'y a eu pas droit avoir une aide ou une réponse à l'extérieur. Et donc, c'est une situation d'insécurité totale et pour les parents et pour les enfants.
Au niveau des nombres, de combien d'enfants clandestins, est-ce qu'on a, il y a des chiffres ou est-ce que tu peux estimer, tu as une estimation?
On peut qu'estimer. C'est-à-dire, de par le fait même qu'ils sont clandestins, c'est très difficile à cerner. Le problème est très difficile à cerner. On a fait à peu près des enfants clandestins première catégorie, c'est-à-dire permis V, à peu près 250 inscriptions à l'école la dernière année, dont les enfants, les parents n'avaient pas encore le droit au regroupement à cause du logement. Il y a une grande partie qu'on peut très bien estimer à des centaines, qui sont dans les écoles privées, et un nombre qui a pu être assumé par la Grèce en moindre mesure, et que peut-être Sylvana a un ordre d'idée sur ceux qui ont passé surtout par la petite école.
Oui, alors Sylvana, tu me parles combien d'enfants tu as dans la petite école, comme vous l'appelez?
Oui, cette année, nous avons accueilli autour de 24 enfants, le maximum. Et puis actuellement, vers la fin d'année, on tourne autour de 20 enfants. C'est ça le nombre, le maximum d'enfants qu'on peut accueillir, nous, par le fait qu'on est aussi limité par nos moyens. Mm-hmm. On a seulement deux permanentes qui travaillent en collaboration avec certains bénévoles et à mi-temps. Donc, on est aussi, nous, limité par rapport à nos moyens, soit financiers, des locaux et par personne, pour pouvoir prendre en charge ces enfants.
D'accord. Et puis, quel âge ils ont, juste les enfants que vous avez?
Oui, nous avons des enfants depuis 5 ans jusqu'à 13 ans. On a toute la gamme d'âge. On en a de 7, 8, 9, 10, jusqu'à 13.
Est-ce qu'on pourrait parler aussi plus généralement sur les problèmes spéciaux ou spécifiques que rencontrent les enfants clandestins au niveau de leur mode de vie, dans la manière de vivre, les conditions de logement et conditions de vie quotidiennes qu'ils vivent ici à Genève?
Oui, c'est souvent des enfants qui passent une partie de la journée toute seule à la maison parce que les parents, tous les deux, ils travaillent. Ils vivent dans des locaux souvent très petits. C'est des studios pour la majorité des cas. Ils sont, par le fait qu'ils sont seuls, ils doivent vivre cachés, ils sont en retraite par rapport à la vie sociale, ils n'ont pas les occasions de rencontrer des autres copains, que ce soit déjà de leur nationalité ou de leurs conditions, et puis de rencontrer aussi des enfants ici, du milieu suisse. C'est des enfants aussi, par le fait justement qu'ils ne peuvent pas rencontrer des autres enfants, ils ne peuvent pas faire certaines expériences, qui en souffrent après des longues années de ces conditions au niveau de leur développement social et parfois même psychologique.
Tout à l'heure à la récréation, quel malheur, mais sans faire attention, je suis tombée de tout mon long en déchirant mon pantalon. J'ai une grosse bosse à mon front et des égratignures au menton. Je suis vexée et bien fâchée d'avoir le nez tout écorché. La maîtresse est venue me soigner, je n'ai pas pleuré, pas rechigné, je ne suis plus de ces bébés qui pleurent à peine, ils sont tombés.
Bon, après avoir parlé, donc nous sommes toujours, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune, nous sommes en train de parler du problème des enfants clandestins ici à Genève. Bon, après avoir fait un peu un portrait de l'enfant clandestin et de ses problèmes qu'il rencontre, parlons maintenant plutôt de ce que vous faites avec les enfants, c'est-à-dire toute votre méthode de travail quant à l'encadrement et la prise en charge de ces enfants.
Oui, nous sommes deux permanentes qui s'occupent à mi-temps de l'accueil de ces enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, de vingtaine jusqu'à 24 enfants, d'âges très différents, de 5 jusqu'à 13 ans. On a essayé de partager un peu ces enfants par groupe d'âge dans la mesure du possible. Et avec l'aide de certains bénévoles, on essaye de structurer un programme d'accueil en donnant la priorité à la socialisation de ces enfants parce qu'on estime que c'est important d'abord de donner à ces enfants un lieu de rencontre. Pour nous, c'est déjà très important que ces enfants puissent sortir de la maison, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des enfants qui doivent, par le fait qu'ils sont d'un statut clandestin, rester cachés à la maison, passer une grande partie de la journée toute seule. Pour nous, donc, c'est très important que déjà, ils puissent, ces enfants, rencontrer des autres enfants, soit du même âge ou des autres tranches d'âge, et pouvoir jouer et pratiquer des expériences avec des autres enfants.
Les enfants que vous avez à l'école, donc comme tu le disais tout à l'heure, ils ont en fait une marge d'âge très grande, entre 6 ans et 13 ans. Donc tu dois rencontrer des gens qui ont des scolarités très différentes ou même pas de scolarité.
Oui, ça c'est un des problèmes que nous on rencontre quand on essaye de structurer un peu des activités en fonction des âges de ces enfants. Parce qu'on peut avoir des scolarisations, quand je parle au niveau des programmes strictement école, on peut avoir des scolarisations très différentes. On peut avoir le même âge, mais par le fait que ces enfants viennent des pays où la scolarité n'est pas obligatoire après les premiers 5 écoles primaires, on retrouve évidemment des enfants qui arrivent et puis ils ont passé déjà une année ou deux années sans aller à l'école. Ou s'ils ont été à l'école, ils ont été mal scolarisés. Alors on a toute cette gamme de mal scolarisés à essayer de prendre en charge. Mais comme on dit, pour nous, la priorité est donnée à la socialisation. Donc on essaye déjà avant de préparer un terrain bien solide au niveau de l'approche et du contact avec les autres enfants. Et après, quand on voit qu'on peut introduire des notions scolaires, on fait le travail de ce côté. Et, évidemment, c'est très difficile par le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'essayer de donner un programme spécifique à chaque enfant, mais dans la mesure du possible, où on a des personnes bénévoles à disposition, on essaye de donner le plus de temps à chaque enfant et d'essayer d'élaborer un programme spécifique pour ces enfants.
Et puis, combien de temps vont-ils à l'école, dans votre école? Vous vous avez fixé un minimum d'années où ils peuvent venir fréquenter votre école?
Oui, nous, on a fixé à une année, c'est l'idéal. Et puis, dans les cas où on voit que c'est un peu qu'il faut être assez souple, on les accepte même pour 2 années. Parce qu'on estime qu'au-delà, on ne peut plus les accepter parce que nous, déjà, en travaillant à mi-temps et puis en donnant la priorité à la socialisation, on ne peut pas couvrir une lacune de 4 années ou de 3 années de prise en charge de ces enfants. C'est un peu trop.
Et alors, des enfants, disons, dont les parents viennent d'obtenir le permis A, donc la première année de permis A, vous les découragez à venir à votre école et trouver d'autres moyens, c'est ça?
Tout à fait. C'est-à-dire, la première approche avec les parents, c'est évident que si le statut est très précaire, et puis dans une première année des saisonniers, on ne sait pas très bien, il n'y a aucune garantie que l'année d'après, il obtiendra le permis, et l'année d'après aussi, et ça lui donnera finalement, au but, un permis B. Donc, dans la mesure du possible, l'école ne peut pas assumer un programme scolaire suivi pour que la scolarisation des enfants n'aille pas beaucoup de pertes. On leur conseille ou bien de les garder s'ils ont la possibilité de bien chercher dans leur pays d'origine parce que c'est important que l'enfant soit bien scolarisé même si c'est dans une langue qui n'est pas la française. Ou bien d'essayer de trouver avec eux une solution de rechange ici dans les écoles privées. ce qui n'est pas toujours évident parce que les écoles privées ici sont très chères et celles qui sont le moins chères, qui sont de caractère catholique pour la plupart, sont archi pleines. Et on essaye aussi d'obtenir des bourses pour des enfants spécifiques, mais ça ne couvre qu'un petit besoin. Mais on ne peut pas assumer plus qu'une année, maximum 2 années, les enfants dans cette situation de scolarité, c'est vrai.
Horaire scolaire, tu peux me parler combien d'heures par journée passe-t-il dans votre petite école?
Oui, nous on les prend en charge depuis le matin à 8h jusqu'à 11h30. Et on fait ça depuis le lundi jusqu'au vendredi. Ça, c'est pour ce qui est de l'accueil avec les deux permanentes et les bénévoles. On a réussi pour une partie des enfants à utiliser une certaine infrastructure au niveau des centres de loisirs. Donc, pour une dizaine d'enfants, il y a la possibilité d'aller l'après-midi, 3 après-midi, du lundi au mercredi, dans un centre de loisirs de la ville, pour faire des activités récréatives.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, e eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, e eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar, deixa andar. Fale de mim quem quiser falar, aqui eu não pago aluguel. Se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, e eu não mudo de opinião, e eu não mudo de opinião, e eu não mudo de opinião, e eu não mudo de
Vous êtes à l'écoute de Radio Pleine Lune sur Radio Zone 93.8. Nous parlons aujourd'hui des enfants clandestins à Genève. Sylvana, tu nous parles encore un peu des buts en fait que vous avez avec les enfants en les faisant venir à l'école.
Et pour nous, c'est important que ces enfants s'adaptent le mieux possible à la nouvelle réalité dans laquelle ils sont insérés. Et c'est pour ça que je dis avant, le premier but de notre accueil avec ces enfants, c'est la socialisation et la connaissance du milieu qui entoure ces enfants. Et c'est pour ça qu'on donne beaucoup d'importance aussi au contact qu'on peut avoir avec différents milieux que le nôtre. On donne aussi beaucoup de temps pour la prise des contacts avec les centres de loisirs, même l'école publique, certaines infrastructures qu'on peut utiliser qui sont déjà sur place dans la ville. Et beaucoup de temps, comme j'ai dit, est réservé pour tous ces contacts, pour que ces enfants puissent avoir la possibilité de faire des expériences qu'ils ne peuvent pas faire dans leur milieu, par le fait qu'ils sont beaucoup de temps cachés à la maison. Alors ça fait que quand ils viennent chez nous, pour eux c'est une ouverture et souvent les plus grands des enfants, ils viennent chez nous pour avoir la possibilité d'avoir des contacts qu'ils ne peuvent pas avoir dans le milieu. Déjà le fait de rencontrer leurs copains et en plus le fait de pouvoir rencontrer aussi des copains d'une autre culture, d'une autre langue, ça c'est très important aussi.
Et le passage à l'école publique, est-ce qu'on peut faire un petit bilan déjà? Est-ce que ça se passe bien? Et puis est-ce que les enfants à l'école qui sont après à l'école publique retournent-ils pour vous dire bonjour? C'est pas pour continuer les contacts, continuent-ils au-delà de la petite école?
Cette année, nous, on a pu insérer dans l'école publique autour de 6 enfants. On a toujours pris des contacts à l'avance quand on savait que ces enfants, dans un mois ou deux, ils seraient partis pour l'école avec les enseignants qui étaient censés les recevoir. Donc on avait déjà fait un lien avec l'école publique. Et puis dans la mesure du possible, quand on avait le temps, parce qu'évidemment on est limité avec nos moyens, avec les personnes et tout ça, mais dans la mesure du possible, on a toujours gardé un certain lien avec ces enseignantes et on a pu suivre un peu l'évolution de l'intégration, entre guillemets, de ces enfants dans l'école publique. Et dans la majorité des cas, on a remarqué que ça s'est toujours bien passé. On a eu des échos, un retour de la part des enseignants qui étaient très contents du fait que l'enfant était passé avant chez nous parce qu'il avait déjà un peu fait une certaine connaissance d'un certain milieu autre que celui que lui, il était habitué à vivre. Donc, c'est toujours des échos très positifs, je peux dire, qu'on a reçus par le fait des enseignantes, par le fait que ces enfants soient passés avant dans un milieu comme le nôtre.
Un autre problème que j'aurais voulu discuter avec nous, c'est évident que dans une émission comme celle-ci, avec peu de temps, on ne va pas pouvoir parler de tout et puis faire un cercle, et puis tout est résolu et puis tout est clair. C'est en fait le travail que vous faites avec les mères, les pères, c'est-à-dire avec les parents.
Mais le travail que nous pouvons faire avec les parents de ces enfants est très limité par le statut même précaire de ces familles. Ils se bornent surtout à leur donner toute une série de renseignements sur les problèmes qu'ils vont retrouver plus tard dans le passage à la légalité, c'est-à-dire pour y avoir droit, et à leur chercher des solutions justement pour les enfants. Par rapport à l'organisation qui serait souhaitable de faire parmi ces familles, je ne pense pas que ce soit très, très évident tant qu'eux, ils n'ont pas acquis quand même une certaine sécurité des vies dans le pays même. C'est connu que plus tu te sens à l'aise quelque part, plus tu y participes, plus tu cherches des solutions avec les autres. Donc ça se borne surtout à essayer de les mettre ensemble pour qu'ils sachent que les problèmes sont les mêmes pour tous et ils ne sont pas seuls à les savoir, ces problèmes, de les aider ou les renseigner sur la difficulté qu'ils vont retrouver à trouver un logement, par exemple, dans la situation actuelle, et que leur expliquer bien que c'est une obligation pour avoir droit au regroupement familial, donc pour légaliser ses enfants. Et puis, on essaye, par ailleurs, avec eux et surtout avec d'autres associations et d'autres formations, de faire avancer le problème que signifie cette catégorie d'émigrés si précaires et dernièrement arrivés.
Est-ce que, par exemple, des cours de langue pour parents, tu vois, ou pour les mères, vous essayez aussi de stimuler, de faire la même chose, en fait, que l'enfant doit faire?
Les parents de ces enfants sont assez occupés. Hein. Il faut dire qu'ils passent leur journée à parcourir les régies en vue de trouver un logement qui leur permette d'avoir accès au regroupement familial, d'un côté. D'un autre côté, leurs salaires sont si petits qu'ils sont obligés d'y travailler la plupart du temps les deux pour arriver à avoir un salaire moyen. Donc, ils ont très peu de temps à disposition. Après, ils habitent dans des logements tellement exigus qu'il faut toujours défaire le lit, refaire le lit, recommencer, faire un dortoir de ce qu'était une salle la journée. Donc c'est très difficile de les faire participer. D'autre part, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Il y a d'autres institutions qui font de la formation des langues pour les adultes, et là on les adresse. C'est vrai, on les informe de ce qui existe et la possibilité d'y avoir accès et d'apprendre la langue.
Well, in
Bon, face à l'ambiguïté des autorités, hein, qui d'un côté n'ouvrent pas les écoles hein, pour ces enfants clandestins, mais qui en fait connaissent leur existence, vous tolèrent et puis les tolèrent, ces enfants, quelles sont en fait vos actions, vos démarches auprès de ces autorités pour parler, pour disons voir cette situation telle qu'elle est?
Nos démarches, évidemment, c'est d'essayer d'obtenir à ce que les statuts des enfants ne dépendent pas des statuts légaux des adultes. C'est-à-dire le droit à l'enseignement, ça doit être le droit de chaque enfant, n'importe où et dans n'importe quel pays. Alors on se demande pourquoi en Suisse, le statut juridique des parents doit pénaliser le droit à l'enseignement pour ces enfants, d'un côté. D'un autre côté, on essaye de rallier autour de la Grèce et de ses projets le plus grand nombre de personnalités, d'institutions et autres, de façon à ce que tous ensemble, à un moment donné ou à un autre, on arrive à trouver une solution justement pour les enfants ou bien politiquement à faire pression pour l'élimination du statut des saisonniers qui est en fait la première cause de la clandestinité de ses enfants.
Votre association, donc, hein, c'est l'association Genevoise pour la reconnaissance et l'encadrement des enfants sans statut légal. Tu peux nous donner l'adresse et puis le CCP pour des dons éventuels?
Voilà, alors c'est à Grèce, 9 rue Simon Durand, 1227 Acacia. Le numéro de compte, c'est le 12-6-6-3-7.
Alors, vous avez pris note, tout don donc, pour cette association sont naturellement les bienvenus. Je vous répète le numéro du CCP, c'est le 12-6637-0 et c'est en faveur de l'association Genevoise pour l'encadrement et la reconnaissance des enfants sans statut légal à Grèce, AGRES, Genève.